All I Wanna Do vous a été présenté par le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, la banque qui agit chaque jour pour le développement de l'économie locale.
À quoi tu penses?
C'est ça.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Les étoiles en plus.
Ah ouais?
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Merci de commencer cette semaine en notre compagnie. Séquence Midi, c'est en direct du lundi au jeudi de 12h30 à 13h. Avec vos découvertes musicales, votre agenda et bien sûr vos invités. Aujourd'hui, on partagera un petit moment musical avec l'Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine qui fête les 10 ans de ces moments partagés. Et ce sera en seconde partie d'émission. Mais tout de suite, on revient sur le drame qu'a vécu le quartier des Couronneries à Poitiers en compagnie d'Anne Charpentier et Baya Keita qui sont habitants du quartier des Couronneries et membre de la table de quartier. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Anis est malheureusement décédé. Il avait 15 ans. Il était en train de manger tout simplement le soir d'Halloween. Comment déjà on peut revenir sur ce drame? Comment vous avez vécu, vous, en tant qu'habitante de quartier, ce drame?
Tu commences? Plutôt comme un choc parce que moi quand je me suis réveillée j'ai reçu un message d'une personne de Passons-nous, c'est un organisme qui gère un peu les tables de quartier, qui me dit qu'est-ce qui s'est passé, on pense très fort à vous, donc je comprenais pas. Et puis après je vois l'article où je vois il y a une émeute, 400 à 600 jeunes, RICS, enfin je comprends pas. Et moi qui suis administratrice du centre d'animation des Couronneries, donc du coup, la veille, on avait fait une soirée Halloween où c'était une super soirée où il y avait plus de 300 personnes. Et donc beaucoup de personnes, des jeunes, même des familles, sont parties ensuite sur la place Coimbra pour terminer la soirée en allant se restaurer, comme feraient beaucoup de personnes après une soirée Halloween ou une autre festivité, aller au McDo ou voilà.
Et alors, donc vous avez appris, effectivement, c'est vrai que ça a pris une ampleur assez folle. Comme tout le monde, vous avez reçu des messages un peu partout. Qu'est-ce qui se passe à Poitiers ? Donc, suite à ce drame, vous vous êtes vite rendu compte que ce qui était déclaré au niveau national, ce n'était pas ce qui s'était passé.
Oui, ça c'est tout de suite, dès le lendemain matin, bon, on a eu ces coups de fil. La famille nous appelle, est-ce que vous avez été blessé ? Parce que quand même, 400 ou 600 personnes, c'est de la guerre civile. C'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur.
C'est ce que le ministre a dit, effectivement.
Il annonce une guerre civile, alors évidemment, tout le monde s'inquiète. Nous, on était dans notre lit, et puis on n'avait rien vu, évidemment. Donc c'est le lendemain, on cherche, bien sûr, on cherche à s'informer, Internet, les radios, les journaux, etc. Et c'est là qu'on découvre, si je puis dire, la version du ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, parlant de narcotrafiquants, effectivement, de 500 à 600 personnes se battant sur la place Coimbra, des choses... Alors, ça a été démenti dans les quelques heures, dans l'après-midi. Ça a
Mais
été
pas par
démenti
le ministre.
Par le procureur de la République, par Madame le maire aussi, et par divers organes de presse. Je me souviens que Libération a été assez rapide à démentir, Mediapart aussi... et puis les journaux locaux.
Les journaux locaux n'ont pas raconté ces faits-là.
Non, ils n'ont pas repris ça. En fait, ça a été surtout relayé à la télévision, avec pas mal d'audience, malheureusement. Oui. Et donc, le temps que l'information... ce qui nous a beaucoup choqués, d'abord, c'est les jugements qu'a porté notre ministre sur les quartiers, en parlant de mexicanisation, des choses quand même très, très fortes et qui ne correspondaient absolument pas à la réalité. Et puis qu'il n'est fait ou n'est opposé, à la suite de ça, aucun démenti, aucune excuse, aucune mise au point. Parce que c'est la presse, en fait, qui a refait des mises au point, et le procureur de la République. Donc, au niveau du discours de l'État, quand même, dans la personne du ministre de l'Intérieur, on en reste là, quoi, à être stigmatisé comme un quartier... où il y a de la guerre civile autour de la drogue, quoi.
On sait que c'est un quartier qui est quand même meurtri. Il y a eu, au moment des émeutes, il y a eu les incendies dans le quartier. Comment on rattrape, effectivement, après des événements comme ça, et puis une stigmatisation comme ça d'un quartier, comment, quand on est impliqué dans le quartier, on arrive à rattraper ça derrière, à rassurer les gens
Comment rattraper ? Déjà, il y a aussi la place qui est très importante des associations, la maison de quartier, qui, quand il y a eu ce genre d'événement, a vraiment mis les moyens pour pouvoir discuter, échanger avec les habitants, les rassurer, leur dire on est là. Après, je le répète souvent, je fais le quartier Couronnerie, c'est un quartier qui a pratiquement 10 000 habitants. Et que ceux qui posent problème, c'est une extrême minorité. Ça se compte sur les doigts d'une main, c'est quelques dizaines. Le reste ne pose pas de problème. Il y a des personnes qui sont là, beaucoup, qui, malgré les difficultés du quotidien, font ce qu'ils peuvent pour subvenir aux besoins de leur famille. Les jeunes, ils ont envie de réussir. Il faut que les gens aussi... apprennent à se connaître. C'est aussi le gros problème qu'il y a actuellement, c'est qu'il y a très peu d'échanges entre les personnes. Les gens ont beaucoup d'idées préconçues sur les quartiers, comme d'autres ont aussi des idées préconçues sur les quartiers bourgeois, aisés. Et en fait, ça crée beaucoup de malentendus et beaucoup de stigmatisation, alors qu'en fait, si les gens se connaissaient, ils verraient que c'est totalement différent.
Et quelles sont les conséquences de tels propos dits au niveau national sur un quartier qui a par ailleurs des difficultés, mais aussi plein de belles choses, effectivement ?
C'est la stigmatisation, elle est quand même très démoralisante. Parce que ce quartier, on peut poser différents regards sur ce quartier. Par exemple, on peut l'appeler la ZUP. J'ai remarqué, moi j'habite dans ce quartier depuis 2 ans, j'ai remarqué que les habitants n'aiment pas qu'on dise la ZUP. Alors moi je l'appelle, dans mon fort intérieur et avec mes amis, je l'appelle le quartier village. Parce que dans les tours, j'ai compté, quand il y a 12 étages et 4 appartements à chaque étage, une tour, ça fait un village. Et moi, dans la tour où j'habite, c'est comme dans un village. On se rend des services, on se prête du Doliprane quand on a mal à la tête et rien chez soi. Enfin, voilà. Donc, on peut avoir ce regard d'un quartier-village où on se connaît, ou du moins on peut se connaître, et où il y a un tissu associatif quand même qui est très actif. Un centre culturel qui est très actif aussi, avec des projets, avec des lycées qui fonctionnent bien, avec des crèches, etc. Ou bien, évidemment, on peut prendre un regard dépréciatif et trouver que c'est un quartier dangereux, etc. Bon, ce qui n'est pas du tout le cas, même si là, il y a eu... est-ce que cet assassinat, puisque c'est de ça qu'il s'agit, hein, il faut bien... préciser qu'à Nice n'était pour rien dans les trafics, hein, se trouvait là par hasard, ainsi que les autres jeunes qui ont été blessés. Cet assassinat aurait pu se produire, j'imagine, dans le centre-ville de Poitiers aussi. Enfin, il y a un concours de circonstances et de hasards très très malheureux.
Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez, enfin, il y a quelques jours, là, vous avez décidé d'écrire directement au ministre?
Alors, pourquoi on a décidé d'écrire? Parce qu'en fait... vraiment, dans l'ensemble des échanges qu'il y a eu avec les habitants, pas forcément à la table de quartier, mais aussi, il y a vraiment un profond sentiment d'injustice. Voilà. On a montré du doigt des jeunes qui étaient partis se prendre un sandwich. On a sali leur réputation, on les a fait passer pour des délinquants. Donc vous imaginez ce qui a été balancé sur toute la France. Hein, voilà. Ce sont des narco-racailles. Imaginez aussi pour les parents, hein, ces mères qui ont eu leurs enfants blessés. Enfin, le choc déjà d'avoir été pris pour cible, enfin, que leur enfant ait été pris pour cible, mais qu'en plus, ils aient été montrés du doigt par un homme d'État quand même, hein, et qui se permet, comment dire, des choses aussi c'est une insulte. Enfin, vraiment, c'est vraiment une insulte pour les habitants. Et on s'est dit quand même que le minimum qu'ils devraient faire quand même, c'est quand même s'excuser, voilà, auprès des habitants, auprès des familles, au rassemblement. Enfin voilà, on a vu. J'ai rencontré des mamans qui étaient là, qui étaient extrêmement choquées. Et c'est des mamans qui font tout pour leurs enfants, qui travaillent très tôt le matin à l'heure où tout le monde dort, qui travaillent tard le soir. Il faut vraiment, j'insiste vraiment sur le fait que qu'il faut vraiment qu'on arrête de stigmatiser les gens, de croire que c'est parce qu'on est dans les ghettos, ce sont des gens qui profitent, ce sont des ados qui sont parce qu'ils sont habillés en jogging basket, ce sont des incols, alors qu'en fait vous seriez d'un autre quartier de Saint-Cloud, là où je viens, il y a un groupe de jeunes qui sont là, qui écoutent du hard rock, donc du coup ils sont tous habillés avec leurs baguilles, est-ce que pour autant ça ferait d'eux des délinquants? Non, c'est parce qu'ils sont justement ils suivent un style, un genre musical. Enfin voilà, et il faut qu'on arrête ça.
Donc dans un premier temps, au moins des excuses. Dans un second temps, remettre en place une vraie politique éducative, une politique de la ville. C'est important pour ces quartiers d'investir. Ben là, il y a une grande rénovation, par exemple, au Couronnerie, mais c'est pas tout.
C'est vrai que le quartier est bien rénové. Bon, ça ne suffit pas. Hein. On a à la table de quartier, on a des actions. Des actions en direction des jeunes. Par exemple, on va faire venir une groupe de théâtre, peut-être on l'annoncera plus tard, à propos de la parole des jeunes, justement. Et la lettre qu'on a écrite, elle est venue justement du groupe de la table de quartier qui essaie d'agir en direction des jeunes, enfin pour les connaître d'abord et puis voir ce qu'on peut faire comme activité ou comment... essentiellement de les connaître, essentiellement d'établir des liens d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Bon, on a prévu cette pièce de théâtre-là pour décembre, donc des activités auxquelles des jeunes participent. Mais dans le moment, c'est vrai qu'on était un peu les bras coupés, quoi. Que faire? Aller au rassemblement qui s'est fait après les obsèques, effectivement, où il y avait quand même énormément de monde. Là, c'était pas une rixe, hein. Il y avait plusieurs centaines de personnes dans le silence et dans la dignité, hein, qui étaient là. Aller voir la famille, des actions comme ça, mais on s'est dit, on peut quand même pas encaisser cette diffamation et ne rien dire. Donc, on n'aura peut-être pas des excuses, je pense que nous n'aurons pas d'excuses, mais nous, pour notre dignité, c'était important de dire non, ça, on n'accepte pas de tels propos.
Vous l'avez envoyée il y a une quinzaine de jours, cette lettre, est-ce que vous avez eu un retour?
Non,
pour l'instant, non.
Pour l'instant, non.
Merci beaucoup toutes les deux, donc Anne Charpentier et Baya Keïta, donc habitantes du quartier des Couronneries et membres de la table de quartier, d'être venues témoigner effectivement de ce choc pour le quartier et amplifié par les propos du ministre. En tout cas, la lettre est partie. On espère que vous aurez un retour. Merci beaucoup.
Merci à vous.
On continue en musique avec quelques extraits de Prokofiev, Pierre et le loup. Vous comprendrez juste après pourquoi. On accueille Anne-Marie Hainaut, responsable de l'action culturelle à l'Orchestre de chant de Nouvelle-Aquitaine. Bonjour.
Bonjour.
Et Ariane Becker, donc chargée d'information senior au pôle gériatrie du CHU de Poitiers. Bonjour.
Bonjour.
Merci à toutes les deux d'être là pour un anniversaire, les moments musicaux partagés de l'Orchestre de chant de Nouvelle-Aquitaine qui fête cette année leurs 10 ans. Alors on va revenir un petit peu sur ces moments partagés. En quoi ça consiste ?
C'est un partenariat en fait qui a été monté entre l'Orchestre de chant de Nouvelle-Aquitaine, le pôle de gériatrie et à l'époque Itinéraire Santé. C'était parti en fait d'une réflexion d'un de nos médecins gériatres, le docteur Mijon Dubalet, qui vraiment s'intéressait donc aux malades Alzheimer et à leurs proches aidants. Et qui partait du constat qu'effectivement, quand il y a une pathologie qui est diagnostiquée, notamment une maladie neurodégénérative, souvent, en fait, la personne ne reste qu'une personne malade et on oublie un petit peu son identité en tant que personne elle-même. Et elle entendait, en fait, des chroniques sur France Inter d'Hervé Platel, qui est un grand chercheur, effectivement, qui s'intéresse aussi au lien entre musique et cerveau et qui démontrait tout l'intérêt sur le cerveau de pouvoir participer à des concerts de musique ou pratiquer la musique pour avoir une réminiscence, c'est-à-dire en fait retrouver des souvenirs. Et donc partant de ce constat, elle a proposé effectivement à l'Orchestre de chambre de s'associer et de créer ces moments musicaux partagés, donc créer en fait un événement qui soit proposé à la fois aux malades Alzheimer et à leurs proches aidants pour les amener à ressortir de chez eux, ne pas rester confinés à la maison, ce qui fait que souvent ça précipite la pathologie, et pouvoir profiter de ces moments vraiment privilégiés et rencontrer d'autres personnes.
Et comment les musiciens, musiciennes se sont, sont entrés dans ce projet ?
Donc déjà, l'orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine, on est vraiment toujours partant pour faire de tels projets. Ça nous intéresse énormément. Et les musiciens sont aussi habitués et de leur côté, ça leur apporte aussi forcément une grande force de pouvoir rencontrer ces personnes. Donc on a créé un projet en plusieurs étapes et donc on fêtera les 10 ans cette année. La première étape est un concert intimiste à la médiathèque. On s'est associé à la médiathèque de Poitiers. À chaque fois, depuis 10 ans, une petite formation, un petit ensemble de musiciens de l'orchestre viennent donner un concert. Et ça a été très, très varié, des formations vraiment diverses à chaque fois. On associe aussi une classe de l'école Gisèle Halimi, qui est tout proche, pour créer l'intergénérationnel dans ce concert. Et puis, on voit qu'on ne peut pas, à ce moment-là, savoir qui est malade, qui, voilà, l'aidant, l'aider. Vraiment, il n'y a pas de différence. Les musiciens, après, peuvent répondre aux questions, s'approcher des personnes. Et c'est une rencontre très, très riche. C'est pour ça que c'est les moments musicaux partagés.
Est-ce que vous avez constaté pendant ces 10 ans des impacts, des positifs peut-être chez les participants ?
Alors oui, tout d'abord effectivement par rapport au retour des de ce qu'on appelle les aidants, donc les proches en général, c'est le conjoint ou l'enfant en fait qui accompagne la personne, voire des professionnels qui eux nous ont vraiment témoigné de côté positif de partager ces concerts. Déjà sur le regard qu'ils portaient sur leurs proches, de se rendre compte qu'ils étaient encore capables de sortir avec eux et de pouvoir profiter d'un moment de concert et justement ne pas avoir la pathologie à ce moment-là. Et puis aussi le fait que la personne malade souvent en fait garde un sentiment très positif suite à ces concerts et donc est moins angoissée, a moins de troubles du comportement et aussi se souvient de ce concert, ce qui n'est pas toujours évident avec la maladie neurodégénérative.
Est-ce que les musiciens de l'orchestre sont formés, accompagnés pour intervenir auprès de ce public ?
Alors on a une rencontre avant avec le docteur Mijon du Ballet qui explique aussi la pathologie et pour qu'il puisse vraiment répondre au plus proche de cette rencontre. Et aussi, il faut dire que la deuxième étape, l'important, c'était aussi de les amener à un concert au TAP de tout l'orchestre. Donc, en amont, nous avions parce qu'on l'a déjà fait plusieurs dimanches, il faut que ce soit absolument un dimanche, et nous avons un accueil privilégié où on discute, on prend le temps avant de rentrer dans cet auditorium qui a quand même 1000 places. Et voilà, et ça se passe vraiment très 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 bien. C'est pour ça que cette année, nous n'avons pas de concert un dimanche au TAP. Et nous avons créé une journée particulière le 28 novembre, ce jeudi, avec un accueil, on offre un concert de Pierre et le Loup. Voilà.
C'est pour ça qu'on a entendu juste avant.
Voilà, dans une version assez nouvelle, avec une comédienne, Sandrine Bourreau, récitante, qui met beaucoup d'humour, avec un ensemble de 5 musiciens, c'est un quintet avant.
Est-ce que justement il y a une attention particulière dans le choix des morceaux pour ces moments-là ? Est-ce que vous discutez ensemble ?
Alors pour les concerts en petite formation, oui, ce sont déjà des... On pense qu'il faut mieux avoir des œuvres qu'ils peuvent justement se rappeler, connaître. Mais pas que, il y a aussi des découvertes. Et ensuite, quand ils viennent au TAP, ils assistent à un concert. On aime bien quand il y a du chant, par exemple, des chanteurs lyriques ou une mise en scène. En tout cas, c'est vrai que dès qu'il y a quand même des mélodies qu'ils peuvent reconnaître, c'est plutôt agréable.
Donc pour l'anniversaire, là, ce jeudi, donc il y a ce moment partagé, mais il y a aussi une conférence qui est ouverte à tout le monde.
Exactement, en soirée à 18h au TAP, sur réservation, il ne reste plus qu'une vingtaine de places, ceux qui veulent venir.
C'est le moment de s'inscrire.
Alors, nous avons fait appel cette fois-ci à Emmanuel Bigan, un professeur de psychologie cognitive rattaché à l'université de Bourgogne, qui a fait beaucoup, beaucoup de travaux et de recherches sur justement les bienfaits de la musique sur le cerveau. Et notamment, il a créé beaucoup d'articles et il a mené sur Arte un gros documentaire sur tout ce que la musique peut, dans tous les domaines d'ailleurs, peut avoir comme bienfait, et notamment sur les personnes qui ont des troubles cognitifs.
Le thème de cette conférence, donc, ça s'appelle « Musique et cerveau », et va pouvoir aborder différents sujets, notamment tout ce qui peut être positif, ce que peut apporter la musique en fait, au niveau de l'apprentissage, également pour les enfants, et donc le lien aussi entre les souvenirs et la musique.
Et aussi les musiciens. Il est violoncelliste. Et là, il va intervenir avec trois musiciens de l'Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine qui se joignent à lui pour former un quatuor, pour donner des exemples.
Donc ça, c'est rendez-vous ce jeudi pour cette conférence donc, musicale. Et comment vous souhaiteriez, toutes les deux, après 10 ans, faire évoluer ce projet des moments musicaux partagés? Est-ce que ça aussi donne d'autres idées pour d'autres projets quand on voit l'impact que ça a sur les personnes?
Alors, moi, je parle personnellement, hein, parce qu'on ne s'est pas concerté.
voilà.
Mais je pense qu'il peut être intéressant d'ouvrir ce projet à plus de publics, pour justement éviter de stigmatiser uniquement sur cette pathologie. Il peut y avoir d'autres personnes qui ont des troubles, effectivement, ou des pathologies qui les empêchent de sortir de chez eux. Et donc, ça pourrait être intéressant, effectivement, d'ouvrir à un public plus large ce type de moments musicaux partagés.
Et de mon côté, j'ai quelques idées, peut-être d'être encore plus proche, qu'il y ait un musicien qui rencontre personnellement un malade d'Alzheimer, et puis créer ensemble quelque chose, et faire une grande création, ça... Voilà.
On voit que 10 ans, vous n'en avez pas marre, vous allez encore plus loin, ça vous donne déjà des idées pour la suite. Merci beaucoup à toutes les deux. Donc rendez-vous ce jeudi et dépêchez-vous parce que pour la conférence notamment, il n'y a plus beaucoup de place. Donc Anne-Marie Hainaut, responsable de l'action culturelle à l'Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine, et Ariane Becker, donc chargée d'information senior au pôle gériatrie du CHU de Poitiers, d'être venue partager cet anniversaire avec nous.
Un grand merci.
Merci beaucoup.
On continue avec le Toit du Monde qui a reçu la Fédération des centres sociaux et socioculturels de la Vienne avec Cécile Martineau, déléguée adjointe de la Fédération.
Bonjour Cécile Martineau, tu es déléguée adjointe de la Fédération de la Vienne des centres sociaux. Alors peut-être dans un premier temps, tu vas peut-être nous présenter les activités principales de cette fédération. Et puis surtout, je voudrais qu'on insiste sur les projets de la fédération demain. Il y a eu un exercice très important de prospective qui a été réalisé en 2024 sur Rêvons la fédération de demain. Je voudrais que tu nous en dises un peu plus sur le contenu et sur les enjeux que ça a recouvert.
Merci Dominique. Donc la fédération, oui, c'est 23 associations fédérées, 23 espaces de vie sociale et centres sociaux qui ont pour but d'animer la vie sociale à partir des besoins et des problématiques des habitants. Et nous, la fédération, on soutient nos adhérents, c'est-à-dire les associations. Donc on a un accompagnement personnalisé pour chacun d'entre eux. Pour ça, on travaille, on fait de l'ingénierie sur la manière d'accompagner pour avoir des process un peu identiques ou qui soient efficaces pour chacun des accompagnements. Ensuite, on a une grosse fonction de mise en réseau et d'animation. L'idée, c'est que les centres sociaux et les espaces de vie sociale se connaissent entre eux et fassent des projets ensemble. Et puis, on représente évidemment ce réseau et l'idée de la société qu'elle défend. Et donc, on construit des plaidoyers avec eux. Ces plaidoyers qui, parfois, vont jusqu'à la mise en place de projets.
D'accord. Alors, peut-être quelques enjeux là, qui ont été identifiés en 2024 sur la façon de structurer la fédération demain?
Oui. En fait, on a écouté nos adhérents pendant une année, histoire de retirer avec eux les enjeux principaux pour une fédération efficace demain. Et l'une des pistes importantes, c'est par exemple celle de s'adapter aux nouvelles formes d'engagement. Nos associations sont faites pour beaucoup de bénévoles et on a besoin de s'adapter aux nouvelles formes d'engagement parce que les gens ne s'engagent plus comme ils s'engageaient. Et donc c'est important de mettre en place un parcours pour les bénévoles.
D'accord, ça va déboucher sur des formations peut-être particulières dès 2025 ?
Dès 2025, des formations, des temps de regroupement où on pense politique ensemble.
D'accord, bon, on va suivre encore donc, les autres enjeux qui vont être identifiés par la fédération de près. Et merci en tout cas Cécile pour ce premier témoignage.
Demain, dans Séquence Midi, on recevra eh bien, des représentants de l'Association régionale pour le label Nouvelle-Aquitaine du patrimoine vivant, entreprise du patrimoine vivant, avec notamment la fabrique de parapluies qui sera là. Et tout de suite, c'est l'heure de l'agenda. Et il est présenté par Yves.
Vous vous demandez sûrement qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir à faire un lundi à Poitiers. Eh bien oui, même un lundi, il se passe des choses et je suis là pour vous en parler. Alors tout d'abord, ce 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Dans le cadre de Poitiers se mobilise contre les VSS, l'émission End the Tap Drips, nos collègues bénévoles de Radio Pulsar organisent une émission Place le Petit à partir de 18h. Et à 19h commencera la marche féministe organisée par le collectif du 8 mars de la Vienne, le 8 mars étant la journée internationale des droits de la femme. On reste dans la même thématique avec l'association Les Moujas qui organise une exposition les 50 ans de slogans féministes. Exposition gratuite, accessible aux horaires d'ouverture de la M3Q, la maison des trois quartiers. Il y aura également une vente d'affiches au profit de l'association Mémé Marcel, autre association œuvrant sur le territoire et ayant participé à des événements de Poitiers se mobilise. En résumé, 50 ans de slogans féministes, c'est l'exposition gratuite à la maison des trois quartiers, accessible jusqu'au 4 décembre. Et aujourd'hui marque aussi la dernière journée de l'exposition à la recherche du Petit Prince, qui expose les tirages argentiques de Léon Dubois qui a traversé le monde à la recherche des traces de Saint-Exupéry et via la mémoire des habitants dans les lieux traversés par l'auteur. L'exposition est donc encore disponible gratuitement jusqu'à aujourd'hui de 11h à 19h à la médiathèque François Mitterrand. Un peu de théâtre maintenant avec le Théâtre Auditorium de Poitiers qui organise à 19h la première séance de Vouloir Gagner, représentation d'Eliakim Sénégal-Laju, sorte de biographie d'une femme et de son rapport à la compétition. Ce sera à 19h au TAP, puis à la même heure mardi si vous l'avez loupé.
Merci beaucoup Yves, on te retrouve dès demain à 8h pour Espace Matin avec toute ton équipe de chroniqueurs et chroniqueuses. Sur Pulsar, donc Yves vient de vous le dire à 18h, c'est End the Tap Drips, émission spéciale en direct et en public. 19h, c'est la bande dessinée avec X-Bull, Punks à 20h et à 21h, des lives dans Scrogneugneux. C'était Jonathan à la réalisation technique, merci. On se quitte avec Left to Early Bird en collaboration avec Iman Hussein. Bonne écoute, à demain.
City lights, an irrepressible pressure, overwhelmed in the heart, no way, no force, no measure. In the city heights, stolen moments we treasure. Praise most the above, for which we have this pleasure. In your arms, we falls away. Under your light, I'm here to stay. In a city light, in a city pressure. In a city light, in a city pressure. In a city light. In the city pressure, in the city light, in the city pressure.
Pulsar.
Pulsar.
Radio curieuse et citoyenne.